Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
Ok, alors pour ce matin, je vous propose qu'on reprenne notre passage de Marc 16 qu'on a regardé la semaine dernière ensemble, parce que le Seigneur a continué de me mettre des choses à cœur et de me parler sur ce sujet qu'on a entamé. Je rappelle, la semaine dernière, on a partagé ensemble la parole de Dieu à partir de Marc 16, 15, et en fait, le thème que j'avais donné, c'était sous forme de question. C'était quoi la semaine dernière, vous vous rappelez ? Croyez-vous au miracle ? Vous avez demandé, croyez-vous au miracle ? On avait commencé à voir ensemble que Dieu est un Dieu qui fait des miracles, que depuis la Genèse et jusqu'à l'Apocalypse, tout au long des Écritures, il y a des interventions surnaturelles de Dieu. Il y a des choses étonnantes, il y a des choses puissantes, il y a des choses glorieuses qui se passent. Je vous rappelle qu'un miracle, c'est tout simplement une intervention surnaturelle de Dieu. Et quand il se produit un miracle, le cours naturel ou normal des choses est renversé, suspendu, inversé ou tout ce que vous voulez, mais en tout cas, un miracle, c'est quand quelque chose se passe qui ne devrait normalement pas se passer. Et on a vu ensemble, au fil des Écritures, que Dieu désire accompagner sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. On a vu que Dieu confirme sa parole par des miracles. On a vu que l'Évangile n'est pas seulement un discours persuasif, mais qu'il est une démonstration d'esprit et de puissance. On a vu que les apôtres circulaient partout, prêchaient la parole, et que cette parole était accompagnée de miracles. On a vu que dans Hébreux, il est rendu témoignage que ceux qui proclamaient l'Évangile étaient appuyés par des miracles. Et la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que nous voyons des miracles. Amen. Et on a regardé plusieurs choses la semaine dernière, plusieurs paroles, mais ça en fait, ça ne faisait que poser un fondement, parce que l'Esprit de Dieu a continué de me parler. Et ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin avec vous et j'intitulerai pour aujourd'hui « Vivre des miracles aujourd'hui ». « Vivre des miracles aujourd'hui ». Marc 16, au verset 15. « Puis il leur dit, Jésus, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et au verset 20, « Ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et ici, on a une liste de quelques miracles, mais bien sûr, c'est une liste qui n'est pas exclusive ou exhaustif. C'est une liste qui est là, qui concerne différents domaines, de notre existence, qui concerne une action spirituelle de Dieu. Mais si on suit un peu le ministère de Jésus et plus tard le ministère des apôtres, on va voir qu'il y a plusieurs sortes de miracles. Qu'il y a des miracles de guérison, qu'il y a des miracles de création, qu'il y a des miracles de résurrection, qu'il y a bien sûr les délivrances, la protection, etc., etc., etc. Mais ce que je veux vraiment qu'il soit clair pour nous, et là où Dieu veut nous emmener, je crois, c'est de réaliser que Dieu veut faire des miracles aujourd'hui. Et que l'évangile que nous prêchons et le message que nous prêchons, qui certes est là pour que nous puissions vivre la vie abondante de Dieu, n'est pas juste un message pour se faire du bien ou pour essayer de nourrir un espoir quelconque, mais c'est un message qui doit être accompagné de puissance. Et quand l'évangile est annoncé, quand la parole pure de Dieu est annoncée, elle est accompagnée d'une puissance. Et cette puissance a la capacité de produire des miracles, c'est-à-dire de changer le cours naturel des choses. Et ce matin, je voudrais qu'on regarde un petit peu comment on peut vivre des miracles. Comment est-ce qu'on peut vivre des miracles aujourd'hui ? La semaine dernière, on a posé le fondement. On a vu que Dieu veut faire des miracles et que c'est pour notre temps. Mais faut-il que nous croyions aux miracles et que nous nous y attendions ? Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous montrer quelques aspects pratiques ou plus précisément comment faire pour vivre des miracles, ou comment est-ce que chacun d'entre nous, on peut voir des miracles dans notre vie. Et le premier point que je voudrais souligner, qu'on a déjà commencé à toucher, mais c'est tout simplement la foi. Si on regarde un petit peu, ne serait-ce que notre passage de référence, Marc 16, verset 17, Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc celui qui croit, des miracles sont supposés l'accompagner. Et si vous lisez un peu les évangiles, on ne va pas piocher beaucoup de versets aujourd'hui, parce que ça prendrait du temps, mais régulièrement, lorsque Jésus faisait un miracle, il répondait à la personne, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi. À un homme, il dira même, je n'ai pas vu une si grande foi dans tout Israël. Et à cause de la foi, des miracles pouvaient se produire. Donc l'un des ingrédients, si on peut parler d'ingrédients pour un miracle, c'est bien évidemment la foi. Et d'ailleurs, l'épître de Jacques nous exhorte dans ce sens en disant que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Donc on peut aussi en comprendre que celui qui croit fermement peut s'attendre à recevoir de Dieu. Donc un premier point, un premier élément sur lequel je ne m'étends pas beaucoup, c'est tout simplement la foi. Un deuxième élément qu'on voit lorsqu'il y a des miracles, c'est qu'il y a le Saint-Esprit et l'onction de Dieu. Jésus lui-même, je vous rappelle qu'il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme quand il marchait sur la terre. Et Jésus lui-même, vous pouvez étudier sa vie, n'a accompli aucun miracle avant de recevoir l'onction du Saint-Esprit. C'est au moment où Jésus a été baptisé au Jourdain et que le Saint-Esprit est venu sur lui sous forme d'une colombe que Jésus a donc reçu l'onction et à partir de ce moment-là, il a commencé à faire des miracles. Et quelquefois, on représente Jésus, soit dans la tradition ou je ne sais pas quoi, comme un enfant qui est en train de jouer et puis comme s'il faisait des miracles à longueur de temps pendant qu'il jouait avec ses petits copains. C'est pas biblique. La Bible dit que le premier miracle, il s'est passé à Cana, quand Jésus a changé l'eau en vin. Et avant cette période-là, il n'y avait aucun miracle. Et quand Jésus est allé à Cana, il avait été revêtu du Saint-Esprit. Donc un autre élément pour les miracles, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même le dit plusieurs fois dans l'Écriture. Si vous arrivez à me suivre, vous pouvez tourner avec moi. Sinon, je vais lire pour vous dans Luc chapitre 4, par exemple, le passage qui est assez connu, où Jésus nous parle de son appel, de ce qui va se passer avec lui, avec une lecture prophétique du livre d'Ésaïe. Si vous revenez dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, vous trouverez aussi ces paroles. Et Jésus dit ici, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, verset 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc Jésus lui-même va insister dans cette lecture en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire ces choses-là. » Donc si nous voulons voir des miracles, si nous voulons voir Dieu confirmer sa parole, nous avons besoin d'être oints du Saint-Esprit. Et dans Actes 10 au verset 38, il est dit « Vous avez vu comment Jésus, oint du Saint-Esprit et de force, allait de lieu en lieu et faisait du bien partout où il passait. » Donc Jésus, ce qui faisait la différence, bien qu'il était Dieu, il était homme, ce qui faisait la différence, c'est qu'il avait l'onction. Et avec l'onction, il pouvait faire du bien autour de lui, il pouvait voir des miracles. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous, nous avons reçu l'onction. Jésus, avant de partir, disait à ses disciples, je vous laisse le Saint-Esprit, vous recevrez un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et plus tard dans les épîtres, je n'ai pas noté la référence, mais il est dit « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » Nous avons reçu l'onction, c'est la même onction. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit que c'est la même église, et il n'y a qu'une église. Donc l'église du livre des actes qui vivait dans la puissance, nous sommes toujours la même église. Le temps passe, mais nous sommes la même église, nous avons la même puissance, nous avons le même mandat de Dieu. Et nous avons reçu le même Saint-Esprit et la même onction pour pouvoir vivre et voir des miracles aujourd'hui, pour pouvoir manifester dans ce monde une parole de Dieu vivante, efficace, active. Et vous pouvez voir les mêmes choses dans votre vie que ce que Jésus a vu, que ce que certaines personnes voient et que parfois nous admirons. Mais nous avons la même onction du Saint-Esprit. Et si nous allons avec la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit dans la foi, nous sommes en marche vers le miracle. Le jour de la Pentecôte, vous vous rappelez de cette histoire dans Actes chapitre 2 ? Tout d'un coup, il y a un vent qui s'est mis à souffler. Il y a des flammes de feu qui sont descendues sur les disciples qui étaient assemblés. Autant de phénomènes surnaturels. Ce n'était pas quelque chose de physique. Ce n'était pas juste le vent comme on peut avoir le vent ici qui nous rafraîchit parce qu'on n'est pas loin de la mer et que ça nous fait du bien, mais un vent impétueux, il est dit. Et des flammes de feu se sont mises au-dessus de chacun sans pour autant les brûler. Personne n'avait craqué une allumette pour mettre du feu. C'était un signe surnaturel, un miracle de la puissance de Dieu. Ils étaient là, ils étaient en prière. Plus loin, dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean vont marcher en proclamant l'évangile, rencontrer un paralytique et vont leur dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et ce paralysé va se lever, marchant, sautant, louant Dieu pour ce qui s'était passé. Et même les gens reconnaissaient, mais c'est lui qui était assis à la porte du temple à mendier depuis des années. Maintenant, il est guéri. L'évangile était accompagné de puissance, de miracles, de guérison. Plus tard encore, dans le livre des Actes, alors que les chrétiens étaient réunis et qu'ils priaient, il est dit que le lieu où ils étaient assemblés se mit à trembler. C'est un miracle. C'est surnaturel, c'est la puissance de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Et un autre aspect aussi de la puissance de Dieu, c'est quand Ananias et Saphira ont essayé de tromper Dieu et ses serviteurs, et eux ont été jugés directement et radicalement dans Actes chapitre 5, ils sont tombés raides morts. Et même si ça nous paraît négatif, c'est un miracle, c'est surnaturel. Ils n'avaient rien pour mourir, mais ils ont trompé Dieu, ils sont morts. La puissance de Dieu était en action. Et nous faisons partie de cette même église, comme je disais. Nous avons le même Saint-Esprit, nous avons le même évangile, la même puissance à disposition. Et il est temps que nous vivions des miracles aujourd'hui et que le monde dans lequel nous vivons puisse voir des miracles aujourd'hui. Pensez pas que les gens ont besoin de la puissance de Dieu aujourd'hui? Pensez pas que les gens ont besoin aussi de voir des miracles? Moi, je crois qu'on a autant de besoins qu'à l'époque et peut-être même plus. Et vous savez, les miracles, les signes, les prodiges, ça surprend les gens, ça les étonne. Mais à un moment donné, ça les attire à savoir, mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont à partager? La religion, ça peut intéresser quelqu'un. Il va essayer d'adhérer intellectuellement ou théologiquement. Mais quand il y a des miracles, quand il y a la puissance de Dieu, il y a autre chose qui est suscité chez quelqu'un. Parce que c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas produire. Et Dieu nous a donné cette capacité, cette puissance. Moi, je ne suis pas témoin et porteur d'une religion. Je suis porteur de l'évangile. Et l'évangile, c'est une puissance de Dieu. L'évangile est accompagné de manifestations. Donc, premier aspect, nous avons besoin, c'est la foi, c'est croire dans les miracles, c'est croire ce que Dieu dit. Deuxième aspect, nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit et l'onction, parce que sans l'onction, on ne peut rien faire. Un troisième aspect, et il est important aussi celui-là, c'est d'être humble, l'humilité. Se soumettre à Dieu et lui donner la gloire. Jacques chapitre 4. Il est écrit que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que si je suis orgueilleux, Dieu me résiste. Donc même si Dieu voulait faire quelque chose à travers moi, si je suis orgueilleux, il me résiste. Même si j'essaie d'être dans la foi, même si j'essaie de prier, il me résiste. C'est-à-dire qu'il n'accède pas à mes demandes. Mais si je suis humble, il me fait grâce. C'est-à-dire si je suis humble, il peut faire des miracles à travers moi. Et une vérité importante et fondamentale à comprendre, et que Jésus lui-même avait comprise et qu'il n'hésitait pas à faire comprendre à ses disciples, c'est que celui qui fait les œuvres, celui qui fait les miracles, celui qui est capable, celui qui accomplit des choses, ce n'est pas moi-même. Et Jésus lui-même disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui est en moi. Et nous avons besoin de réaliser, d'être conscient que celui qui fait les œuvres, c'est le Père. Et si aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, Dieu accomplit des miracles, quelqu'un est guéri, quelqu'un est délivré, il se passe quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui l'a fait. Et il est important d'être humble, de se soumettre à Dieu et aussi de lui rendre et de lui donner la gloire pour ça. Jean 14, par exemple, au verset 10. Jean 14, 10. Jésus, parlant avec Philippe, lui dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Donc ici, on a plusieurs choses qui nous sont montrées. Déjà, il nous rappelle encore, il nous confirme que nous ferons les mêmes œuvres que lui et de plus grandes. parce qu'il s'en va au Père. Mais si nous voulons faire les mêmes œuvres que lui, nous devrions aussi nous attarder, faire attention à la manière dont il faisait ses œuvres. Nous voulons peut-être et nous désirons peut-être tous voir des miracles, voir des guérisons, voir les gens se convertir en foule. Mais comment Jésus faisait-il? Jésus ne disait rien de lui-même. Jésus ne faisait rien de lui-même. C'est le Père en lui qui faisait les œuvres et il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il nous dit dans Jean chapitre 5, où on va tourner tout de suite. Mais nous avons le même Seigneur, nous avons le même Père, et il dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui et de plus grandes. Parce qu'il s'en va au Père, mais nous sommes là, et Dieu veut continuer d'agir sur la terre, il veut le faire à travers nous. Et Jésus nous a donné un exemple, mais ensuite il s'est sacrifié pour nous. Le but de Jésus, ce n'était pas juste de faire des miracles et de démontrer la puissance de Dieu. Son appel, c'est de se sacrifier pour nous. Mais il nous a transmis la responsabilité de poursuivre l'œuvre de Dieu qui est accompagnée et caractérisée par des miracles. Donc Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit la parole et dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des choses plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc là encore, Jésus nous montre qu'il ne fait rien de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ça, c'est aussi l'une des clés pour lesquelles Jésus réussissait tout ce qu'il faisait, pour lesquelles chaque prière que Jésus faisait était exaucée, pour lesquelles chaque malade que Jésus touchait était guéri. Chaque fois que Jésus venait faire quelque chose, cela se réalisait. Pourquoi ? Parce qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et nous pouvons voir des miracles, nous pouvons voir des choses se produire, mais pour ça, nous avons besoin de faire comme lui, de faire ce que nous voyons faire au Père. C'est-à-dire d'apprendre à voir, à entendre ce que Dieu fait. Et une fois que Dieu nous a montré ce qu'il fait, nous pouvons faire cette œuvre aussi sur la terre et sa puissance va être manifestée. Jésus lui-même disait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes, mais Dieu en nous est capable de faire des choses et Dieu veut nous montrer ce qu'il fait pour que nous puissions être participants à son œuvre et voir des résultats, voir sa puissance. Ceux qui croient en lui feront les mêmes choses et de plus grandes. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce que l'Église prêche ça aujourd'hui? Est-ce que l'Église vit ça? Peut-être, mais timidement. Nous avons besoin de réaliser comment Dieu veut faire de grandes choses, mais aussi de nous mettre en position, avec la foi, avec l'onction, dans l'humilité, en faisant ce que le Père fait, en sachant que c'est lui qui accomplit les œuvres et non nous-mêmes. Et dans Galates chapitre 3 et verset 5, on a encore une interpellation là-dessus. Galates chapitre 3 et au verset 5. L'apôtre pose une question dont bien sûr nous allons trouver la réponse. Il dit « Celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Et ce matin, on peut se poser la question, est-ce que Dieu va faire des miracles par les œuvres, à cause de nos œuvres, parce que nous posons des actes, parce que nous faisons quelque chose, ou bien est-ce par la foi et par la prédication de la foi ? Est-ce qu'on voit, c'est que pour produire des miracles, nous avons besoin de poser un fondement, prédication de la foi. Nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu et de communiquer la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous avons besoin de prêcher la parole, produire la foi chez quelqu'un. Et à ce moment-là, nous nous préparons, nous nous mettons en disposition de voir des miracles. Mais ce ne sont pas par nos œuvres. On peut maintenant décider et dire on va sortir faire des miracles. Mais si nous n'avons pas posé un fondement dans la parole de Dieu, si Dieu ne nous a rien montré, on risque de rentrer et d'être déçu ou triste. Peut-être Dieu va-t-il faire certaines choses parce qu'il nous fait grâce et qu'il sait qu'on est parfois un peu désobéissant, un peu léger. Donc peut-être qu'on va prier pour quelqu'un Et si on a réussi à lui parler au moins un tout petit peu de la parole de Dieu et mettre un peu de foi en lui, Dieu va honorer peut-être cette foi, mais nos résultats seront légers, très maigres. Mais si on se met devant Dieu, on dit « Seigneur, moi je veux travailler avec toi, je veux collaborer avec toi. Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire, utilise-moi, conduis-moi Seigneur. » Et qu'on attend que le Seigneur nous montre ce qu'il fait et qu'à ce moment-là on sort et on y va, je peux vous garantir qu'on aura des résultats. Et que chaque personne qu'on va toucher, qu'on va rencontrer, à qui on va parler, va recevoir son miracle. Et Dieu sera glorifié. Pourquoi ? Parce que Dieu fait les œuvres à travers nous. Et ce ne sont pas nos œuvres qui vont produire un miracle. C'est l'obéissance à ce que Dieu nous montre. Je ne peux rien faire de moi-même. Et Jésus lui-même ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et j'aime bien le récit du premier miracle de Jésus, dont j'ai mentionné vaguement tout à l'heure. Le premier miracle, c'est quand il a changé l'eau en vin. Et la mère de Jésus qui était là et qui a assisté à la scène, va faire une déclaration très intéressante. Elle va venir vers Jésus en lui disant « Mais il n'y a plus de vin. » Et Jésus va lui répondre dans un premier temps que finalement que ça n'intéresse pas. Il lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et ça voulait dire que c'est ton problème, c'est pas le mien. On dit que Jésus, à la base, ne pensait pas faire ce miracle. Mais Marie va quand même insister en disant au serviteur « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, un peu plus tard, Jésus prend la parole et va leur dire « Remplissez ça à ras-bord et allez l'amener à votre maître. » Et certainement qu'entre-temps, le Père a montré à Jésus qu'il allait changer l'eau en vin. Et Jésus a donné les ordres qu'il fallait. Mais j'aime cette parole de Marie, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Et de la même façon, on doit avoir ça dans notre cœur. Quoi que le Seigneur te dise, quoi que le Saint-Esprit te dise, fais-le. Certainement pour ses serviteurs, c'était étrange d'aller remplir ces grands vases de terre d'eau alors qu'ils avaient besoin de vin. Et puis Jésus les envoie vers le maître de cérémonie pour qu'ils goûtent. Et j'imagine qu'ils devaient être dans une position un peu étrange. Je veux dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Je vais apporter de l'eau à la place du vin. Et finalement, comme vous le savez, parce que l'histoire est connue, ce vin était meilleur que le précédent. Mais quoi qu'ils vous disent, faites-le. Si nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre, si nous voulons voir des miracles, nous avons besoin d'être suffisamment humbles pour faire ce qu'il nous dit, même si mon intelligence me dirait autrement. Quand le Seigneur te dit « fais ça de telle façon », peut-être que là-haut ça va déranger, parce que dire « mais moi j'aurais fait comme ça, et Seigneur tu serais venu bénir ce que j'ai fait », on te dit « non, moi j'ai dit que c'est comme ça ». Quoi qu'il vous dise, faites-le, faites-le. Parce que c'est lui qui fait les œuvres. Et peut-être que la manière d'y arriver va paraître étrange pour moi, mais lui va faire l'œuvre. Donc soyons humbles pour faire ce qu'il nous dit, faire à sa manière et aussi lui rendre la gloire à lui. Parce qu'à un moment donné, si je comprends que moi je suis juste un canal, mais que c'est lui la source, et bien quand il se passe quelque chose à travers moi, je n'ai pas de gloire pour moi-même. Mais je peux sincèrement, honnêtement et réellement lui rendre la gloire. La Bible déclare, je ne veux pas développer ça, mais que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Et si je commence à me prendre la gloire pour moi-même, je vais fermer, entre guillemets, le robinet. Dieu ne va plus pouvoir passer à travers moi. Mais nous devons lui rendre la gloire. Et plus tu lui rends la gloire, et plus Dieu t'utilise. Parce qu'il voit que tu es docile. Parce qu'il voit que tu fais ce qu'il te dit. Et lorsqu'il s'est manifesté, qu'il a accompli son miracle, tu lui rends la gloire. Parce que c'est de lui que la chose vient. Donc, la foi, l'onction, l'humilité, être soumis à Dieu, et lui rendre la gloire. Un autre aspect qui est important, c'est que notre motivation doit toujours être l'amour. Si vous lisez les évangiles encore, Jésus, régulièrement, il nous est dit, Jésus fut ému de compassion. Jésus avait de l'amour pour les gens. Jésus ne faisait pas des miracles pour montrer, regardez, c'est moi le Fils de Dieu. Regardez ce que je peux faire. Regardez comment je fais ci, comment je fais ça. Jésus agissait parce qu'il aimait les gens. Jésus laissait l'amour du Père s'exprimer à travers lui pour les gens. Et si nous voulons voir des miracles, si nous voulons voir des choses se produire, nous avons besoin d'être motivés par l'amour. Nous avons besoin de laisser l'amour de Dieu rentrer dans nos cœurs et s'exprimer à travers nous pour ces gens. Si on veut des miracles juste pour se faire remarquer, pour qu'on nous voit ou pour je ne sais pas trop quelle raison, vous pouvez toujours courir, entre guillemets. La motivation, ça doit être l'amour. 1 Corinthiens 13 nous dit « Si j'avais tout ce qu'on peut obtenir, et si même je faisais les plus grands miracles, et si je parlais la langue des hommes et des anges, et si j'avais ci, et si je faisais cela, mais tout cela, ça n'est rien si je n'ai pas l'amour. » Et cet amour authentique va naître d'une communion réelle, profonde avec le Père. À un moment donné, Jésus prévient que certains viendront devant lui en disant « Mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et Jésus répondra « Je ne vous connais pas. » Comment c'est possible? C'est que ce sont des gens qui n'ont pas marché dans l'amour. C'est que ce sont des gens qui ont peut-être voulu faire des œuvres, qui ont peut-être voulu poser des actes, mais qui n'ont pas été motivés par l'amour du Père et qui n'ont pas été dans une relation vivante, réelle, intime avec le Père. Si bien que Jésus dira « Vous avez fait des choses en mon nom, certes, ma parole est efficace, mon nom est efficace, peut-être que la personne en face avait la foi et avait besoin d'une intervention, donc Dieu est intervenu. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes approuvé de Dieu. » Et c'est peut-être malheureux à dire, ce n'est pas l'objet ici, mais il y a des gens aujourd'hui qu'on peut admirer parce qu'ils ont certains résultats ou qu'ils ont certaines guérisons et qu'ils font certains miracles. Mais ne nous laissons pas surprendre ou tromper. La Bible dit d'ailleurs que certains feront des miracles alors que c'est une autre puissance que celle de Dieu qui va agir à travers eux. Ou certains feront des miracles au nom de Jésus mais sans avoir une réelle communion avec le Père et à cela Dieu dira « Je ne vous ai pas connu ». Mais moi je ne veux pas faire partie de ces gens-là. C'est pour ça qu'on ne va pas chercher d'abord à faire des miracles, on va chercher d'abord à être en communion intense avec le Père. On va chercher d'abord à être un comme Jésus était un avec son Père. On va chercher d'abord à ce que le Père soit en nous et que nous soyons dans le Père, dans une plénitude, dans une communion intense, intime, à recevoir l'amour de Dieu, la direction de Dieu, pour voir sa gloire se manifester. Mais ce que je voudrais insister encore, et on ne va pas tarder à finir, je pense, mais ce que je veux insister, c'est que ça vous concerne, c'est pour vous. Dieu veut faire des miracles, et c'est avec nous, avec ceux qui auront cru. Si vous avez cru, la semaine dernière, j'ai dit que vous pouvez recevoir des miracles pour vous-même, mais si vous avez cru, vous pouvez recevoir des miracles pour vous-même, mais vous pouvez devenir l'outil, l'instrument par lequel Dieu va faire des miracles dans ce monde, par lequel Dieu va toucher les gens. Et moi, j'ai soif, je soupire après des miracles. Et je me suis remis à prier Dieu, à dire, mais Seigneur, comment j'ai pu perdre de vue que ton évangile est accompagné de signes, de prodiges, de miracles? Comment j'ai pu perdre de vue que la prédication de l'évangile, ce n'est pas juste un bon message qui nous fait du bien, mais c'est une démonstration de puissance? Et puissions-nous laisser le Saint-Esprit réveiller dans nos cœurs cette réalité, pour qu'il puisse nous utiliser? On est devant des grandes choses, bien-aimés, je le dis, mais je dis que Dieu va nous utiliser, Dieu va accomplir des miracles. Est-ce que le monde attend, est-ce que la Guadeloupe attend, c'est un message de l'évangile pur, saint, propre, accompagné de signes, de prodiges et de miracles, mais qui manifeste le cœur d'amour du Père. Avec des gens authentiques, pas des tricheurs, pas des voleurs, pas des profiteurs, mais des hommes et des femmes qui s'effacent pour faire paraître leur maître, Jésus. Et on peut faire partie de ce programme, mais tout dépend de chacun d'entre nous. Et juste pour vous encourager, je vais prendre deux exemples courtement dans le livre des Actes de personnes qui n'étaient pas des pasteurs, qui n'étaient pas des apôtres, qui n'étaient pas des évangélistes, qui n'étaient même pas des docteurs, qui n'étaient rien de tout cela, mais à travers qui Dieu a fait des miracles, que Dieu a utilisé, à qui Dieu a montré des choses qui ont été déclencheurs de sa puissance. Actes chapitre 9, et au verset 10, on a l'histoire d'un certain Ananias. Bien sûr, ce n'est pas le même que celui qui est mort quelques chapitres avant, puisqu'il n'est plus là, il est mort. Mais on nous raconte l'histoire de ce monsieur et voit comment Dieu l'a utilisé. Acte 9. Et au verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. N'est-ce pas un disciple? Un disciple, on pourrait dire simplement un chrétien, un croyant qui suivait l'enseignement de Christ, quelqu'un qui marchait avec Dieu. Mais il n'est pas dit que c'était un ministère. Il n'est pas dit que c'était le grand évangéliste international qui passe sur toutes les chaînes de télé. Il n'est pas dit que c'était ceci ou cela. C'était un disciple. Est-ce qu'il y a des disciples ici ce matin? Un disciple. Et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, etc. En fait, Dieu lui donne une vision et Dieu lui donne des directions précises. Il dit, voilà, tu te lèves, tu vas dans telle rue, dans telle maison, tu rencontres telle personne et tu lui dis telle chose. C'était un simple disciple. Mais comme Jésus, il a pu faire ce qu'il a vu faire au Père. Il a pu poser les actes que Dieu lui avait montrés par avance. Et il savait que ça réussirait, même si au début il va un petit peu discuter en disant « Mais cet homme-là, c'est celui qui persécute les chrétiens. Seigneur, t'es sûr que c'est lui ? T'es sûr que je peux aller ?» Mais Dieu va dire « Vas-y, parce que c'est un instrument pour moi. » Et Ananias, ce disciple, ce simple disciple, était rempli de foi. Et il va venir devant Saul, il va lui imposer les mains. Son plus grand persécuteur. Il pouvait peut-être risquer sa vie, mais il y va. C'est peut-être quelque chose d'insensé, mais il a reçu une vision, une parole de Dieu. Et il s'est levé, il a été posé là, il a fait. Et il est temps que des disciples, que des enfants de Dieu puissent se tenir dans la présence du Seigneur. Et que le Seigneur puisse nous communiquer une vision. Que le Seigneur puisse, quand il veut faire une chose, dire, moi j'ai un disciple ici, j'ai un disciple là, et nous donner la vision. Dire, voilà, tu vas dans telle rue, tu frappes à telle porte, tu demandes telle personne et tu fais telle chose. Et moi je crois que Dieu veut le faire aujourd'hui. Et il faut sortir du système où on est assis et on dit, tu vas frapper une porte et tu dis, viens à l'église pour que le pasteur prie pour toi. Non! Dieu veut faire des miracles au quotidien. Oui, à travers moi en tant que pasteur, mais à travers chacun de ses disciples. Et je crois qu'il est plus que temps et que Dieu souffre quelque part. Et Dieu a soif d'utiliser des personnes à qui il puisse dire, voilà ce que je veux faire, vas-y, sois mon instrument. Et moi, je désire qu'on soit de cela. Oui, nous avons besoin parfois de miracles pour nous-mêmes, ok, mais nous pouvons être porteurs de miracles autour de nous. Et c'était un disciple à qui Dieu a donné cette vision. Et il a été vraiment une bénédiction, puisque Saul est devenu le Paul que nous connaissons, qui nous a laissé une majeure partie du Nouveau Testament et qui a fait une œuvre apostolique extraordinaire. Plus tard, dans Actes chapitre 10, juste après, pour vous donner encore un exemple, pour y en avoir d'autres, mais il nous est parlé d'un homme nommé Corneille, verset 1er, qui était centenier dans la cohorte dite italienne. Donc c'était un centenier, c'est-à-dire c'était un soldat. Ce monsieur, il avait son occupation, il était soldat, mais il est dit aussi qu'il craignait Dieu avec toute sa maison et qu'il priait continuellement. Donc voilà un homme qui est dans ses activités, mais qui craint Dieu et qui prie régulièrement. Et Dieu va lui parler à cet homme-là et va l'utiliser, il va l'envoyer rencontrer Pierre qui était en train de prier et à travers cette visite de Corneille auprès de Pierre qui ne comprenait pas trop ce que Dieu lui montrait, il y a une porte qui va s'ouvrir pour les païens. Si vous pourrez lire la suite pour vous-même, mais alors que Pierre était là et priait, Dieu envoie Corneille, cet homme qui est pourtant un soldat, qui a son activité, mais qui craint Dieu et qui prie. Et Dieu l'utilise, il dit vas-y. Et ça va déclencher un miracle parce que Pierre, maintenant, va comprendre que l'évangile n'est pas réservé aux juifs, mais qu'il doit le partager aussi avec ceux qui étaient jugés impurs. Et si on lit la suite, on voit que quand Pierre l'a fait, eh bien, il a allé ensuite prêcher la parole quelque part. Les gens ont reçu cette parole. Et avant même que Pierre ait fini de prêcher, le Saint-Esprit était déjà tombé sur ces gens-là. Et pourtant, n'étaient même pas des juifs. Donc Corneille s'est laissé utiliser par Dieu et ça a été déclencheur de miracles pour un certain nombre de personnes. Et ce Corneille, c'était un soldat. Vous pouvez avoir une activité, vous pouvez faire tranquillement votre travail, mais si vous êtes un homme qui craint Dieu et qui prie beaucoup, vous pouvez être utilisé aussi comme Corneille. Et comme cet autre Ananias, ce disciple, à qui Dieu lui a montré quoi faire, et Dieu s'est glorifié, des miracles se sont passés. Donc moi, je nous encourage vraiment à prier davantage. Oui, on peut prier ensemble, mais chacun pour nous-mêmes, prions sérieusement, mettons-nous sérieusement devant Dieu. En disant, Seigneur, je saisis ta parole. Moi, vous savez, Dieu ne fait jamais par hasard. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'amuse à prêcher un petit message parce que ça me paraît que ce sera pas mal pour cette semaine, ça va nous faire plaisir. Je prêche ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur et je prie que ça continue. Et pendant la semaine dernière, on a parlé, croyez-vous, au miracle. Aujourd'hui, il revient et il nous dit, vive des miracles aujourd'hui. Et je sais que Dieu veut faire quelque chose et que Dieu est en train de bâtir notre foi et de réveiller quelque part en nous ce désir, cette flamme de partager l'Évangile, accompagné de signes, prodiges et miracles. Il veut réveiller quelque chose en nous et je sais qu'on va voir des miracles se produire dans nos vies, à travers nous. Tu sais qu'il va se passer des choses et les gens vont être touchés à travers ça. Les gens vont être attirés à Dieu. Mais laissons-nous interpeller par Dieu. Prenons du temps pour être devant lui et nous mettre à sa disposition. Mais j'insiste sur une chose, on ne va pas essayer de faire des choses. On va se mettre à disposition de Dieu. Parce que c'est lui qui fait les œuvres. Parce que c'est lui qui va nous montrer ce qu'il veut faire. Donc vraiment, je vous encourage et je vous donne cette directive ou cette instruction, peut-être, même si on travaille ou même si on a du temps pendant les vacances, mais dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient, dans les semaines même qui viennent, prenons du temps pour nous mettre devant Dieu, s'il vous plaît. Et prions, demandons au Seigneur ce qu'il veut, demandons-lui comment on peut se rendre disponible. On a vu quelques aspects aujourd'hui, c'est peut-être pas complet, peut-être que Dieu va nous montrer d'autres choses, mais déjà, nourrissons notre foi dans la parole de Dieu, croyons qu'il fait des miracles, qu'il est tout puissant, qu'il veut encore agir. Ensuite, désirons recevoir encore plus de l'onction de Dieu dans nos vies. On a reçu le Saint-Esprit. Mais vous savez quoi? Le degré d'onction dans ta vie dépend en partie de toi. Parce que nous faisons grandir l'onction, c'est encore tout un sujet. Mais on fait grandir l'onction en demeurant dans la parole de Dieu. On fait grandir l'onction en passant du temps dans la présence de Dieu. On fait grandir l'onction en permettant au Saint-Esprit de nous utiliser. Et alors il nous utilise de plus en plus et nous oint de plus en plus. Donc l'onction, désirons grandir encore dans l'onction. Et marchons dans l'humilité, en montrant à Dieu une pleine soumission. Non, Seigneur, je ne veux plus essayer de faire moi-même, mais je veux que tu me dises ce que tu veux faire et je veux faire tout ce que tu m'as dit. Et si Dieu fait quelque chose, même si ça nous paraît tout petit, peut-être insignifiant, mais prenez cette bonne habitude d'un cœur sincère de donner tout de suite gloire à Dieu et de dire merci Seigneur parce que je suis ton canal, mais c'est toi la source, à toi la gloire. Merci de m'avoir utilisé, mais gloire à toi Seigneur. Et même devant les gens, prenez l'habitude. Peut-être vous priez pour quelqu'un, ça lui fait du bien, ou vous parlez à quelqu'un au téléphone, il est encouragé, tout de suite dites-lui gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donnons tout de suite la gloire à Dieu. Et puis soyons motivés par l'amour qui vient de cette relation renforcée avec Dieu, et alors Dieu pourra nous utiliser. Alors nous pouvons être des candidats pour vivre des miracles aujourd'hui. On va voir beaucoup plus du surnaturel de Dieu, beaucoup plus de sa puissance. Moi, je crois qu'on va voir des choses. Je crois que Dieu va nous parler, Dieu va nous conduire. Il veut des choses pour nous, et il va nous utiliser. On va voir le surnaturel de Dieu, pour nous-mêmes, pour les gens qui nous entourent. Et on va voir des miracles, comme Jésus, comme les apôtres, comme les premiers disciples. C'est toujours valable maintenant parce que c'est le même Dieu qui n'a pas changé. C'est le même évangile qui contient la puissance de réaliser ce qu'il promet. C'est cette même parole que Dieu veut encore confirmer au milieu de ce monde. Alors, soyons dans la foi, soyons dans l'humilité, la soumission. Soyons remplis d'amour et mettons-nous à disposition de Dieu. On ne va pas courir après le surnaturel parce que beaucoup de gens se sont égarés comme ça. Mais on va courir après Dieu. On va courir après Dieu. On va passer du temps avec lui et je peux vous garantir que si on est disponible, Dieu va se faire plaisir à déverser dans nos vies de quoi nous faire du bien, mais de quoi aussi manifester le surnaturel autour de nous pour sa gloire. Et que ce monde puisse avoir la révélation. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, on parlait de la révélation des fils de Dieu. Mais on y est encore dans ce message parce qu'il est actuel, il est nécessaire que ce monde puisse voir les fils et les filles de Dieu dans ce monde qui sont caractérisés par le surnaturel, par la puissance, par les miracles qui viennent d'une parole efficace que nous vivons nous-mêmes, que nous pratiquons nous-mêmes et que nous pouvons communiquer pour susciter la foi. Et pour conclure, je voudrais qu'ensemble on puisse se laisser interpeller par Dieu et qu'aussi on puisse faire cette prière qu'ont fait les apôtres à un moment donné. Et ils ont prié dans Actes chapitre 4 au verset 29. Et on peut prendre ça comme un modèle pour l'Église et pour chacun de nous-mêmes, de vraiment nous mettre devant Dieu. Et vous savez, Dieu va répondre parce que c'est sa volonté. Aujourd'hui, je nous dis de prier, de nous placer devant Dieu. En fait, c'est simplement de donner à Dieu notre accord parce que c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il se languit de faire. Et ces apôtres ont prié dans Actes chapitre 4, au verset 29, on va finir avec ça. Ils ont fait cette prière et ce matin, j'en fais notre prière. Ils disent « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace, parce qu'il y avait une persécution, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et au verset suivant, il est dit que quand ils eurent fini de prier, l'endroit s'est mis à trembler. C'est-à-dire que Dieu n'a pas tardé à répandre sa puissance, à répondre, à les équiper, à les oindre. Et ce matin, je vous propose qu'on fasse juste cette petite prière, ces deux phrases ensemble. Si on peut juste se mettre debout ensemble et sincèrement, d'un cœur ouvert à Dieu, vous pouvez répéter cette prière avec moi, disant « Maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Merci Seigneur Père, on est devant toi. Vous pouvez continuer de prier simplement à Dieu par rapport à ce message si ça vous parle. Mais Seigneur, on est devant toi ce matin et on reçoit cette parole. Seigneur, tu nous appelles à croire aux miracles, tu nous appelles aussi à vivre des miracles aujourd'hui. Et Seigneur, je te dis oui. Père, je suis devant toi et nous sommes devant toi et nous recevons ta parole, Papa. Oui, nous voulons voir ta puissance. Oui, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons que ce matin aussi tu puisses, Saint-Esprit, encore nous interpeller, nous éclairer. Là où parfois nous pensons faire la bonne chose, mais viens nous montrer, Seigneur, si on n'a pas la bonne attitude. Viens nous montrer si on n'a pas la bonne motivation. Et Saint-Esprit, s'il te plaît, par ta grâce, viens arracher en nous ces fausses racines, ces fausses conceptions et viens déverser ton eau pure. Tu as dit que tu répandrais sur nous une eau pure et que nous serions purifiés. Alors purifie-nous, Seigneur, ce matin. Viens nous nettoyer, nous rendre clean, Seigneur. Viens nous réformer, Papa, pour qu'à partir d'aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous puissions être des canaux efficaces et utiles. Père, que les pierres qui empêchent, que les obstacles qui empêchent soient maintenant enlevés, arrachés au nom de Jésus, que nos raisonnements, que nos limites soient enlevés au nom de Jésus et que ta puissance, Seigneur, puisse couler dans nos vies. Saint-Esprit, je te demande de restaurer en nous ce feu du premier amour, cette soif de marcher avec toi, cette soif de te connaître, de vivre dans ta présence, d'être dans ta parole, de recevoir l'onction, de croire pleinement tout ce que tu dis. Saint-Esprit, viens nous réveiller, nous ranimer pour que nous puissions désirer, attirer, Seigneur, ta puissance, ta majesté dans nos vies. Seigneur, je te demande de nous parler. Seigneur, donne-nous des visions, donne-nous des inspirations, donne-nous des directions, Père, pour que nous puissions être utilisés. Seigneur, on va être à ta disposition. Et ce matin, on est devant toi, Saint-Esprit. Merci de venir réveiller et renouveler l'onction dans nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas voir de miracles, nous ne pouvons pas voir de résultats. Mais tu nous as donné ta parole qui nous donne la foi. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous te demandons, Père, une onction supérieure, plus grande pour chacune de nos vies et dans cette Église, Seigneur. Merci, Père, pour les miracles et les signes et les prodiges qu'on va voir, Seigneur, dans nos vies. Alors qu'on va ouvrir la bouche pour proclamer l'Évangile, on va voir des signes, des prodiges et des miracles. Alors, Père, que l'Église continue de marcher avec toi, on va voir des signes, prodiges et miracles. Merci, Père, pour l'endroit que tu as préparé où nous allons nous réunir. Et dans cet endroit, les gens vont venir, ils seront guéris, ils seront délivrés, ils seront transformés. Leurs solutions seront radicalement changées parce que ta puissance est à l'œuvre et tu nous prépares, Seigneur. Nous voulons nous laisser préparer. Merci, Seigneur, parce que nous allons voir des miracles. Nous allons vivre des miracles aujourd'hui, jour après jour. Nous allons voir ta gloire, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Alors parle-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Oins-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu nous as dit d'aller, Seigneur. Nous voulons aller. Nous sommes devant toi, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Là où parfois nous avons échoué, Seigneur, nous allons voir des résultats parce que nous allons partir de la bonne façon maintenant. Nous allons agir de la bonne façon. Nous allons faire ce que tu nous dis et rien d'autre. Nous allons entrer dans les œuvres que tu as préparées et elles s'accompliront. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Merci de nous garder dans l'humilité, Seigneur. Et dès aujourd'hui, nous disons que toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne de gloire. Et tout ce que tu vas faire à travers nous, nous te donnons la gloire, Seigneur. Parce que nous ne sommes rien. Mais c'est toi qui nous donnes de la valeur. C'est toi qui nous utilises. C'est toi qui nous oint. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Père. Tu vas confirmer cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, pendant la journée, pendant la semaine, dans les jours qui viennent. Je déclare que nous allons nous tenir dans ta présence. Nous allons faire le bon choix d'être avec toi. Nous allons faire le bon choix de passer du temps dans ta présence et dans ta parole. Et ton onction va grandir dans nos vies. Nous allons recevoir des directives et nous allons obéir. Et nous allons voir ta puissance. Nous allons voir des miracles. Nous allons voir ta gloire, Seigneur. Et nous allons t'élever toi seul. Nous allons t'honorer toi seul. Nous allons amener les gens vers toi seul. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.